Bonjour à toutes et à tous. Je vous propose de nous incliner dans la prière. Seigneur, tu ne nous as pas laissés orphelins, tu nous as envoyé ton esprit, mais tu nous as laissé aussi ta parole pour qu'elle nous enseigne. Et Seigneur, nous voulons y plonger les regards ce matin, nous laisser enseigner par toi, encourager, exhorter. Et Seigneur, je te prie de garder ce temps pour moi-même et pour tous ceux qui ont la charge d'annoncer ta parole. Qu'il soit trouvé fidèle à tes yeux, en ton nom. Amen. Bien, sans tarder, je vous invite à poursuivre notre parcours dans le livre des Actes. Acte 1 nous avait parlé de l'attente du Saint-Esprit qui avait été promis, acte 2 de la Pentecôte et du don du Saint-Esprit. Dans acte 3, on nous avait rapporté la guérison d'un paralysé, et dans ces deux dernières occasions, actes 2 et 3, Pierre avait pris la parole pour expliquer aux témoins ce qui se passait. Et à chaque fois, il avait rappelé quelques éléments essentiels de son message. Jésus-Christ a été crucifié à la demande des autorités religieuses, mais aussi à la demande de la foule. Dieu l'a ressuscité et chacun doit changer, demander à Dieu le pardon de ses péchés et se faire baptiser au nom de Jésus-Christ. Le passage qui nous intéresse aujourd'hui nous rapporte à nouveau un discours de Pierre en réponse aux questions des autorités religieuses. Par quel pouvoir ou au nom de qui avez-vous fait cela? On fait donc référence à la guérison du paralysé. Ceux qui interrogent Pierre sont des prêtres, accompagnés du commandant des gardes du temple, qui est chargé du maintien de l'ordre dans le temple, aux abords du temple, et qui vient voir quelle est la raison de tout cet attroupement. Il y a aussi des Sadducéens. Les Sadducéens, c'était des hommes instruits, riches pour la plupart, qui ne croyaient pas en la résurrection ni à l'au-delà. Ils pensaient que l'âme meurt en même temps que le corps. Et ils sont donc très irrités par l'annonce de la résurrection de Jésus et l'affirmation que tous les morts ressusciteront eux aussi. Comme l'heure est déjà avancée, Pierre et Jean sont menés en prison pour la nuit. Et le lendemain, ils comparaissent devant les plus hautes autorités religieuses du pays pour être interrogés sur la guérison miraculeuse qu'ils ont opérée la veille. Et nous prenons la lecture à compter du verset 7. Ils, donc les autorités religieuses, firent comparaître Pierre et Jean au milieu d'eux et leur demandèrent « Par quelle puissance ou quel nom avez-vous fait cela ?» Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit: chef du peuple et ancien d'Israël, on nous interroge aujourd'hui sur un bienfait accordé à un infirme, afin que nous disions comment il a été guéri. Sachez-le bien, vous tous, et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, celui que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité. Oui, c'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Jésus est la pierre rejetée par vous qui construisez et qui est devenue la pierre angulaire. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Jusqu'ici la lecture pour l'instant. Par quel pouvoir ou au nom de qui avez-vous fait cela? Examinons la réponse de Pierre. Il met en avant le nom de Jésus. Comme l'a dit Johann il y a deux semaines, Pierre ne veut pas être un voleur de gloire. Il rend toute la gloire à Dieu. Dans la Bible, le nom, bien sûr, permet d'identifier une personne, mais il définit la personne. Connaître quelqu'un par son nom signifie le connaître intimement. Quand Jésus dit qu'il a fait connaître son nom aux hommes, dans l'évangile de Jean, chapitre 17, verset 6, cela signifie qu'il leur a fait connaître sa nature divine. Eh bien, Pierre dit, c'est par le nom de Jésus-Christ que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Le nom de Jésus-Christ prononcé agit avec toute la puissance de Jésus-Christ. Il rappelle ensuite que Jésus a été crucifié par ceux qui l'interrogent, et il leur rappelle ainsi leur responsabilité dans la mort de Jésus. Puis il en vient à la résurrection, dont Dieu seul était capable et sur laquelle repose notre foi. Paul dira dans 1 Corinthiens 15, « Si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, Voilà pourquoi Pierre le rappelle à chaque fois. La résurrection de Christ, c'est la manifestation de la toute-puissance de Dieu. C'est celui qui a ressuscité Jésus, Dieu, qui lui a donné toute cette puissance et l'a rendu capable de guérir ce paralysé, mais aussi tout homme qui lui demande pardon. À l'exemple de Pierre, je me dis que lorsque nous témoignons, nous ne devons pas oublier de mettre en avant le nom et la personne de Jésus-Christ. Lorsqu'on nous demande ce que nous sommes, plutôt que de dire « je suis un protestant » ou « je suis un chrétien évangélique », on pourrait peut-être tout simplement dire « je crois en Jésus-Christ, mort sur la croix pour mes péchés et ressuscité ». On va tout de suite dans le vif du sujet et au lieu de porter le projecteur sur notre union d'église, sur une dénomination, sur autre chose, c'est Jésus qui est tout de suite le sujet de la discussion. Pierre rappelle ensuite que ses interlocuteurs n'ont pas voulu reconnaître Jésus. Ils n'ont pas voulu reconnaître sa divinité, malgré tous les miracles qu'il a effectués, malgré toutes les références aux saintes écritures, qu'en tant que docteurs de la loi, ils sont censés connaître. Jean résume cela dans son prologue en disant « La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas reçue. » Cette pierre, elle est devenue la pierre angulaire. La pierre angulaire, c'est celle qui assure la solidité de l'édifice. Elle est souvent bien plus grosse que les autres pour assurer la stabilité de la construction. Voici, je mets en Sion une pierre angulaire choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. Jésus est le roc sur lequel nous pouvons bâtir en sécurité. Il est à la fois la tête et le fondement de l'Église. Enfin, Pierre proclame qu'il n'y a aucun autre nom par lequel nous puissions être sauvés. Voilà une parole bien difficile à prononcer à notre époque, je trouve, mais ça a peut-être toujours été comme ça dans le temps aussi, car cette parole, elle heurte la sensibilité de nos contemporains pour laquelle il n'y a pas une vérité, mais des vérités, chacun la sienne. Dire le contraire, c'est considérer comme de l'intolérance, de l'ignorance des autres religions, par exemple, de la présomption, de l'orgueil, du mépris pour les autres. Pourtant, Jésus a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Ou encore, « Si vous ne croyez pas dans ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. » C'est une autre façon de le dire. De la bouche de toute autre personne, ces paroles pourraient paraître prétentieuses. Mais celui qui tient ces propos, c'est celui qui allait ressusciter. Et sa résurrection est la preuve qu'il a dit la vérité. Je le répète, si Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine. Pierre n'hésite pas à proclamer son message. Vous remarquerez, il arrondit pas les angles, Il dit les choses. Pourtant, c'est lui qui a renié Jésus au moment de son arrestation. C'est lui qui s'est enfui de peur d'être arrêté. C'est lui aussi qui vivait avec les autres cachés dans les jours qui ont suivi la crucifixion en attendant le Saint-Esprit. Et c'est ce même homme qui, aujourd'hui, est plein d'audace. Le texte nous dit, c'est qu'il est rempli du Saint-Esprit. Jésus l'avait annoncé déjà, par exemple dans l'évangile de Marc, chapitre 13, verset 11, « Quand on vous emmènera pour vous livrer, ne vous inquiétez pas d'avance de ce que vous aurez à dire, mais dites ce qui vous sera donné à l'heure même, car ce n'est pas vous qui parlerez, mais l'Esprit-Saint. » Cette promesse s'est réalisée pour Pierre, et je crois qu'elle s'adresse aussi à chacun de ceux qui veulent annoncer la bonne nouvelle. Dans la suite du texte que nous ne lirons pas maintenant, les versets 13 à 18 nous disent que les prêtres ne peuvent pas nier l'évidence. La foule est trop convaincue de ce qu'elle vient de voir. Donc ils n'osent pas arrêter Pierre et Jean, mais ils vont tenter de les intimider et leur interdire de parler de Jésus. Je vous invite à reprendre la lecture au verset 19. Après avoir entendu les intimidations donc des grands prêtres, voilà ce que Pierre et Jean répondent. « Est-il juste devant Dieu de vous écouter, vous, plutôt que Dieu ? Jugez-en vous-même. Quant à nous, nous ne pouvons pas ne pas annoncer ce que nous avons vu et entendu. » Les chefs du peuple leur firent de nouvelles menaces et les relâchèrent. À cause du peuple, ils ne trouvaient pas le moyen de les punir parce que tous attribuaient à Dieu la gloire de ce qui était arrivé. En effet, l'homme qui avait bénéficié de cette guérison miraculeuse était âgé de plus de 40 ans. Est-il juste devant Dieu de vous écouter, vous, plutôt que Dieu? Jugez-en vous-même. Pierre se trouve ici face à un choix. Obéir à Dieu ou obéir aux hommes? Alors quand on pose la question ainsi, la question paraît simple et la réponse coulait d'elle-même. Bien sûr, il faut obéir à Dieu. Pierre d'ailleurs le dira plus tard au chapitre 5, verset 29, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Et vous remarquerez que dans ce verset, il termine sa phrase en disant « jugez-en vous-même ». Je pense que Pierre veut dire par là que son attitude n'est pas un manque de respect envers les hauts dignitaires ou de l'insoumission, mais un cas de conscience, une obligation morale de rendre témoignage à la vérité que ses contradicteurs ne veulent pas reconnaître, alors qu'ils ont convenu eux-mêmes qu'ils ne pouvaient pas nier la guérison miraculeuse opérée par Jean et Pierre au nom de Jésus. Nous ne pouvons pas ne pas annoncer ce que nous avons vu et entendu. Quelle métamorphose chez Pierre. Il n'a plus peur de témoigner ni d'annoncer ce dont il a été témoin. Obéir à Dieu donc plutôt qu'aux hommes. C'est plus facile à dire qu'à faire. Dans certains pays, c'est la vie même des chrétiens qui est menacée parce qu'ils refusent de renier leur foi ou d'obéir aux autorités. Nous sommes encouragés de voir la fermeté dans la foi de certains. Guy, tu as posté sur Facebook là, le témoignage d'un Coréen du Nord qui a dit « Je veux suivre fidèlement Jésus-Christ ». Ça nous encourage de voir ces gens déterminés. Mais est-ce que vous vous êtes jamais demandé comment vous réagiriez si c'était vous qui étiez placé devant ce choix de renier Christ ? Sous peine de sanctions sévères, d'emprisonnement, voire de mort. Pourquoi est-ce difficile? Parce que nous avons, à nos yeux, beaucoup à perdre, surtout dans notre monde occidental, et cela nous fait peur. Jésus avait prévu cette réponse, et il nous dit ce que nous devons redouter. Je vous le dis, à vous qui êtes mes amis, ne redoutez pas ceux qui tuent le corps et qui, après cela, ne peuvent rien faire de plus. Je vais vous montrer qui vous devez redouter. Redoutez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir de jeter en enfer. Oui, je vous le dis, c'est lui que vous devez redouter. Bien sûr, notre sort éternel est plus important que notre sort immédiat. Je pense qu'on en est tous convaincus. Mais bien souvent, nous raisonnons beaucoup plus souvent à court terme qu'à long terme. Nous avons besoin de l'aide de Dieu pour lui être fidèle. Aussi, j'ai cherché dans la Bible des encouragements, des exemples à suivre. Je ne sais pas qui vous auriez choisi, mais pour moi, l'exemple de Daniel s'est imposé. Voilà un homme qui vit loin de son pays, dans une autre culture, et qui se voit confier de grandes responsabilités. Il veut à la fois servir l'Empire, où il est accueilli, il a été déporté, mais il veut aussi rester fidèle à Dieu. Et cela va être une source de conflit et le mettre en danger à au moins 3 reprises. Dans le premier chapitre de Daniel, nous voyons que Daniel et ses compagnons refusent de manger les plats que le roi leur a fait apporter, car ils considèrent que ces plats les souilleraient. Peut-être contenaient-ils des aliments interdits par la loi de Moïse, on ne sait pas. Le texte souligne la fermeté de la décision de Daniel. Mais cette fermeté ne veut pas dire forcément révolte, mais détermination. Daniel est résolu, mais il ne se révolte pas. Il propose une négociation. On peut penser qu'il ne veut pas mettre le chef des eunuques en danger, parce que si les ordres du roi n'étaient pas répétés, eh bien le chef des eunuques n'était pas respecté, pardon, le chef des eunuques risquait sa vie. Alors il lui propose une alternative en lui disant, eh bien, on va prendre un temps et puis tu jugeras par toi-même, tu verras. Et cette alternative, eh bien, permet de préserver les intérêts de chacun. En cette circonstance, Daniel ne s'est pas contenté de dire non. Il a proposé une alternative qui préserve les deux parties. Au chapitre 3, ça va être beaucoup plus difficile de chercher une alternative. Le roi Nabucodonosor impose à ses sujets d'adorer la statue en or qu'il a érigée et de se prosterner devant elle. Là, ce sont les trois compagnons de Daniel qui sont sur scène, et ils refusent de se soumettre au déclaré royal. Ils restent discrets, mais ils sont dénoncés. Le roi les convoque et leur demande s'il est vrai qu'ils refusent d'adorer la statue, et il les menace de les jeter dans une fournaise, dans un très grand feu. Leur réponse est catégorique. Versets 17 et 18. « Si nous sommes jetés dans la fournaise où brûle un feu ardent, notre Dieu que nous servons peut nous en délivrer, ainsi que de tes mains, ô roi. » Ça fait réfléchir, hein, de tenir des propos comme ça. « Mais même s'il ne le fait pas, sache bien, ô roi, que nous ne nous prosternerons pas devant la statue d'or que tu as fait ériger. » Comme Nabucodonosor avait douté que le Dieu d'Israël ait le pouvoir de les délivrer du feu, ils ont commencé par affirmer clairement la toute-puissance de Dieu et sa suprématie. Mais ils savent que Dieu reste souverain en toutes circonstances et que c'est Dieu seul qui choisira de les délivrer ou pas. N'espérons pas obliger Dieu par notre courage ou nos prières. Dieu reste souverain. Sachons bien que notre obéissance à Dieu peut nous coûter et soyons prêts à payer le prix, comme ils l'ont dit, avec autant de courage. Au chapitre 6, Daniel est victime d'une conjuration. Les conseillers du roi, qui sont jaloux de sa réussite, lui tendent un piège en suggérant au roi d'interdire à quiconque d'adresser des prières à toute autre personne que lui-même. Flatté, le roi promulgue le décret et évidemment ceux qui veulent la perte de Daniel s'empressent de le dénoncer car il a continué à prier Dieu. Avec regret, mais pour ne pas se déjuger, le roi ordonne que Daniel soit jeté dans la fosse au lion. Le lendemain matin, il se précipite et crie « Daniel, ton Dieu a-t-il pu te délivrer des lions ?» Et Daniel répond « Mon Dieu a envoyé son ange qui a fermé la gueule des lions parce que j'ai été reconnu innocent devant lui, tout comme je n'ai pas commis de faute devant toi. » La fidélité de Daniel a été la cause des épreuves qu'il a traversées. Mais elle a amené le roi à promulguer cet édit au verset 27, que dans toute l'étendue de mon royaume, on tremble devant le Dieu de Daniel, car il est le Dieu vivant qui subsiste éternellement. Dieu a veillé sur Daniel parce qu'il agissait avec fidélité, et cette fidélité a contribué à ce que le nom de Dieu soit honoré dans tout le royaume. Je résumerai par cette phrase, rien de ce que nous faisons pour Dieu n'est jamais perdu. Une citation de l'évangile de Matthieu. C'est pourquoi toute personne qui se déclarera publiquement pour moi, c'est Jésus qui parle, je me déclarerai moi aussi pour elle devant mon Père céleste. Mais celui qui me reniera devant les hommes, je le renierai moi aussi devant mon Père céleste. Dans l'épître de Pierre, c'est une grâce que de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu quand on souffre injustement. En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes ? Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Et c'est à cela que vous avez été appelés parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Cette parole est claire. Je pense qu'on n'a pas besoin de la commenter. Au chapitre 5 du livre des Actes, verset 41, il nous est dit « Les apôtres se retirèrent de devant le Sanhédrin, joyeux d'avoir été jugé digne de subir des outrages pour le nom de Jésus. » Vous voyez ce que peut faire le Saint-Esprit. Face à ces démonstrations de foi, nous mesurons combien la nôtre est bien faible. Et nous avons tout intérêt à demander à Dieu d'augmenter notre foi et à nous préparer pour ne pas nous laisser surprendre au cas où on nous demanderait un jour de désobéir à Dieu. Je ne voudrais pas terminer cette méditation sans rappeler aussi certaines vérités sur les vertus de l'obéissance. Je me suis dit que les Français sont tellement prompts à désobéir qu'un petit rappel de temps en temps, ce n'est pas forcément mauvais. Vous pourrez lire dans l'Épître aux Romains au chapitre 13 que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Et au verset 5, il est donc nécessaire d'être soumis, non seulement par crainte de la punition, c'est souvent par la peur du gendarme qu'on obéit, mais encore par motif de conscience. Une autre exhortation dans l'Épître de Pierre, soyez soumis à cause du Seigneur, à toute autorité établie par les hommes, parmi les hommes, pardon. Car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisiez au silence les hommes ignorants et insensés. Dieu est un Dieu d'ordre et il a institué des autorités pour le bien de tous. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Pourtant, les parents ne sont pas parfaits. Serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair, comme des serviteurs de Christ qui font de bon cœur la volonté de Dieu, comme servant Dieu et non des hommes. Pourtant, les maîtres, les patrons aujourd'hui ne sont pas irréprochables. L'obéissance, la soumission aux autorités peut être une forme de témoignage lorsqu'elle est conçue comme un service pour Dieu. J'en arrive à ma conclusion. Quand devons-nous désobéir aux hommes ? Lorsque les autorités nous demandent de faire ce qui est contraire à la volonté de Dieu. La question que nous devons nous poser est la suivante. Qu'est-ce qui glorifie Dieu en cette circonstance ? Est-ce que c'est mon obéissance ? Dans certaines circonstances, oui. Ou est-ce que c'est la désobéissance ? Dans d'autres circonstances, oui. J'ai trouvé cette citation de Mike Evans que je vous propose de lire ensemble. La règle générale est la soumission aux autorités. Mais si la situation le justifie, et Pierre était dans une situation qui le justifiait, nous pouvons avec crainte et respect revendiquer notre allégeance, c'est-à-dire notre fidélité, notre obéissance, à Dieu plutôt qu'aux hommes, mais en acceptant les conséquences d'un tel choix. En dernier ressort, le chrétien laisse la question de la justice à celui qui règne sur toute autorité et qui juge justement. Amen. Je vous laisse relire ces deux derniers versets qui m'ont paru les deux points centraux sur le passage que nous avons étudié.